Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Dans un communiqué publié le mercredi 12 septembre 2018, le gouvernement de Kinshasa s'est dit surpris par des déclarations intempestives de certaines autorités étrangères relatives au processus électoral en cours au pays. Une position exprimée également par le chef de l'État, Joseph Kabila, lors de son discours à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Par ailleurs, la RDC a menacé dans une autre déclaration de quitter la Cour pénale internationale. Que vous inspirent ces différentes déclarations? Nos deux lignes sont déjà disponibles pour vos interventions en direct. 081 890 49 69 09 97 06 49 69. Vous pouvez également rejoindre la communauté d'internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Claude Siala est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Gilles Lungembo est à la coordination. Et Pierrot et la Meiji, j'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Et le chef de l'État, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré que les interventions intempestives ou soit l'ingérence d'autres États dans les affaires internes de certains pays fragilisent le travail de l'ONU. Et pour la question de la RDC, le président de la République a estimé que les élections seront financées totalement par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et dans ses communiqués datés du 12 septembre, le gouvernement dénonce ce qu'il qualifie de déclarations intempestives des autorités, certaines autorités étrangères par rapport au processus électoral. Et nous faisons le point avec vous, votre compréhension sur la question de la souveraineté et la question de l'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Et pour en parler, nous avons associé le professeur Moïla Djembe, directeur de l'Institut panafricain de Nancy en France. Professeur Moïla, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand est-ce qu'on peut parler de l'ingérence d'un État dans les affaires internes d'un autre État?
Ben, il faut rappeler que la Charte des Nations Unies a posé comme principe fondateur, l'un des principes fondateurs de la Charte, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Pourquoi? Parce qu'au sortir de la guerre, il fallait créer un nouvel ordre qui devrait mettre en chantier une vision nouvelle de la paix après avoir vaincu le Japon et l'Allemagne de Hitler. Donc, il fallait jeter les bases nouvelles dans la mesure où l'organisation qui était mise sur pied au lendemain de la guerre, la SDN, Société des Nations, avait formé nombre de pays l'avaient quitté, abandonné, à commencer par les États-Unis, et l'ONU a été pensée pour éviter justement que les États se dérobent de leurs responsabilités ou que le lendemain, ils ne respectent pas leurs engagements. Les États ont été rassurés. Quoi que l'advienne, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États est l'un des principes clés de la Charte pour rassurer les États et obtenir leur consentement. Donc ce principe, jusqu'à ces jours, il n'a jamais fait défaut. La Charte des Nations Unies n'a pas été modifiée. Aucun État n'est menacé par un autre État. L'ingérence dans les affaires intérieures des États, dont on peut parler quelques années après, n'est accepté qu'à titre exceptionnel. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États est la règle. L'ingérence dans les affaires intérieures des États est l'exception. Et cette exception est liée aux aspects humanitaires. En cas de crime de guerre, en cas de crime contre l'humanité, en cas de génocide, la communauté internationale ou d'autres États, sous le couvert soit des Nations Unies, la Charte, soit des organisations régionales, l'Union africaine ou l'Union européenne, les organisations régionales, avec l'autorisation du Conseil de sécurité, peuvent engager des opérations de maintien de la paix. Et c'est le seul contexte exceptionnel qui est soumis à ce principe général de respect de la souveraineté des États. Donc, jusqu'à ce jour, ce principe ne fait pas défaut, même si chaque fois que besoin se fait sentir, les États, à tort ou à raison, peuvent estimer que telle ou telle parole, telle ou telle action d'une organisation internationale ou d'un État porte atteinte à leur souveraineté. Mais vous savez, les États sont comme des individus. Tout le monde aimerait qu'on dise du bien de lui. Lorsque un État est pointé du doigt, ou comme un individu, quelqu'un qui vous dirait vous êtes mal habillé, que vos cheveux sont débroussaillés, vous pouvez vous sentir frustré. Donc, c'est le comportement des États et la réaction que les États ont vis-à-vis d'autres États. Parce que la souveraineté, les États ne sont pas seuls. Il y a autant d'États souverains, 193, si on prend l'ensemble des pays des Nations Unies, donc il y a 194 États souverains. Et ces États souverains, par les traités ou les conventions, entretiennent des relations avec d'autres États. En ce moment-là, entre la souveraineté nationale de l'État et la souveraineté internationale d'autres États, il y a une sorte d'équivalence dans le rapport entre les États, c'est-à-dire que par les traités ou par les conventions, les États limitent plus ou moins leur propre souveraineté pour pouvoir traiter avec d'autres États.
Mais professeur, quand on regarde le contexte de la RDC, on sait que la RDC aujourd'hui, depuis près de 20 ans, a une mission de maintien de la paix. Dans le cadre aussi de coopération bilatérale, la RDC reçoit des aides à la coopération de certains pays ou même des organisations comme l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que dans un contexte comme celui de la RDC, que ce soit les Nations Unies, que ce soit d'autres pays qui donnent assez des dividendes pour la RDC, pour que ce soit pour renforcer les budgets ou bien l'aide au développement, est-ce que ces États ont-ils quand même une certaine opinion ou une inquiétude à exprimer sur les plans, par exemple, de la gestion et de la gouvernance?
Mais évidemment, lorsque un État signe un traité ou signe un accord, participe avec d'autres États, il prend des engagements. Il a l'obligation de respecter ses propres engagements vis-à-vis d'autres États. C'est même la condition de respectabilité. On n'est pas souverain tout seul, on est souverain avec les autres. Alors, du moment où on s'engage avec les autres États, on est tenu au minimum de respect de sa propre signature, de sa propre parole. On ne peut pas dire, on signe un traité avec les États ou un accord. Tout à l'heure, vous parliez par exemple des Nations Unies. Savez-vous que lorsque le M23 a menacé le territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République avait envoyé le ministre Tshibanda à l'époque pour aller voir le Conseil de sécurité et attirer d'abord l'attention du Conseil de sécurité en disant « Attention, attention, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a quelque chose qui risque de menacer la paix et la sécurité internationale. » Ça, c'est ce qu'on appelle le plan formel. Le Conseil de sécurité a été réuni pour entendre le ministre congolais lui dire « Voilà les potentialités de la menace. » Mais lorsque le M23 a pris la ville de Goma, le gouvernement congolais est revenu à charge du Conseil de sécurité pour dire, voilà, à l'époque, nous vous avions dit qu'il y aurait une menace, voici la réalité de cette menace, envoyez-nous les moyens militaires pour combattre cette menace. Le Conseil de sécurité s'est réuni, a pris la décision de créer cette brigade armée qui, avec les FARDC, a fait face au M23 jusqu'à le vaincre. Donc, dans ces conditions-là, la souveraineté de l'État congolais n'est pas menacée parce que c'est le Congo souverain, membre des Nations Unies. Je rappelle que l'article 24 des Nations Unies, qui donne la primauté de maintien de la paix et de la sécurité internationale au Conseil de sécurité, l'article 25, les États qui donnent cette charge au Conseil de sécurité reconnaissent que chaque fois que le Conseil décidera, en leur nom, ils acceptent d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Donc, ce sont les États membres qui, par l'article 24, ont donné cette charge au Conseil de sécurité, et à l'article 25, ils acceptent que le Conseil, agissant en leur nom pour maintenir la paix et la sécurité internationale, ils acceptent d'appliquer ces décisions. Donc, c'est du donnant-donnant.
Ok. Les États sont merci.
Si un État souverain a subi des menaces qui dépassent sa capacité à se défendre tout seul, il est tout à fait naturel que le Conseil de sécurité ou l'ensemble des Nations Unies, l'Assemblée générale, participent au soutien à ce pays-là. Donc, la souveraineté de ce pays n'est pas minimisée, mais elle participe à la coopération, à la solidarité dans le cadre des Nations Unies.
On va revenir à vous, professeur, le temps d'écouter les auditeurs qui sont nombreux hein, sur notre page Facebook également, où le débat est commenté. Mais en FM, nous avons Roland qui nous appelle de Lubumbashi. Roland, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, JR, bonjour à vous, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi et surtout au professeur qui est notre invité du jour.
On vous écoute.
Oui, par rapport à la thématique du jour, je crois que c'est une thématique qui a à deux volets à parler. Premièrement, sur l'ingérence de la RDC qui fait débat. Et aussi sur la déclaration du président de la République réclamant, n'est-ce pas, le départ de la MONUSCO. Alors, commençons par l'ingérence politique. Le professeur venait tout à l'heure d'expliquer à long et à large sur le principe des droits. Et comment voulez-vous comprendre que notre pays, qui est membre de l'ONU, et sur quoi également membre du Conseil, n'est-ce pas, des droits de l'homme, ne puisse pas vouloir accepter les conseils des pays membres de certains, n'est-ce pas, organisations dont il fait partie. Entre autres, l'Union africaine, la CEDEAC, le pays des Grands Lacs, tout ça. Comment il ne peut pas vouloir accepter les conseils? Vous savez, il y a un problème qui m'inquiète souvent dans ce pays, c'est que nous sommes prêts souvent qu'en acceptant le Conseil ou soit d'autres déclarations qu'en matière humanitaire. Prenez l'exemple de la situation de Kamouïna-Sapo, lors de la conférence qui a été organisée à Genève. Notre ministre, n'est-ce pas, avait boycotté de prendre part à cette conférence. Mais du moins après, il a eu accepté seulement la somme qui était allouée à cette à ce stade-là pour, n'est-ce pas, donner aux populations victimes. Donc c'est là où nous voyons qu'il y a des choses qui sont un peu, donc en matière politique, là ça cause un problème. Mais par rapport également au départ de la MONUSCO, non, mais n'oublions pas que quand même, la MONUSCO a également contribué dans ce pays à plusieurs étapes. Entre autres, au départ de M23 et tant d'autres. Même s'il y a, nous pouvons aussi les reprocher actuellement là une faiblesse quelque part là. Vous savez également avec l'arrivée de Moïse Katumbi, nous avions suivi Madame la porte-parole vouloir dire que la MONUSCO n'est pas concernée au moment où les pauvres populations étaient menacées, massacrées par le régime en place. Donc la MONUSCO a vraiment l'appui de sécuriser d'abord le paisible citoyen qui sont menacés. Mais quand ce qui se passe au Béni, sous les yeux de la MONUSCO aussi, ça pose problème. Mais
alors pour vous, Roland, vous estimez aujourd'hui que dans le cadre de sa souveraineté, la RDC, vous l'avez dit, ne peut pas recevoir des orientations ou bien des conseils venant d'autres pays, et surtout en ce qui concerne le processus électoral, par exemple?
Oui, bon, mais surtout, la RDC a fait que vrai. La RDC est censée recevoir les conseils d'autres États, dont il est aussi membre de certaines organisations. C'est ça. Et aussi, il y a un problème. Que pouvons-nous dire aujourd'hui? C'est la faiblesse de la diplomatie congolaise qui est constatée. Ou bien c'est l'effort de la diplomatie katumbiste qui aujourd'hui est circule partout dans le monde, qui influence maintenant le pays, d'autres pays, ou bien quelqu'un pour nous dire.
Voilà, merci beaucoup Roland. Merci Roland Bintou, vous êtes à Kimpese, merci de nous avoir rejoints. La question de l'ingérence dans les affaires internes et surtout cette question qui touche au procès électoral, on le sait. Pensez-vous aujourd'hui que la RDC peut évoluer à cette étape du procès électoral ou bien dans d'autres matières sans pouvoir recevoir les orientations venant d'autres pays ou des organisations selon l'esprit de ces communiqués évoqués tout à l'heure, Bintou?
Merci beaucoup, M. Pierrot. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi. Bon, pour répondre à votre question, le gouvernement congolais confond l'ingérence avec la solidarité internationale. Le prof a très bien expliqué ce que c'est l'ingérence et la solidarité internationale. Le monde étant devenu un village, la situation d'un pays peut influer négativement ou positivement sur l'ensemble de la planète. L'exemple du génocide au Rwanda en 1994 a créé des situations dramatiques que la RDC et les pays de la région continuent à payer le prix le plus fort, et surtout dans notre pays. La situation de l'Irak en 2002 a eu aussi de l'impact jusqu'aux États-Unis. Donc si la RDC retombait encore dans la violence et la guerre suite à des mauvaises élections par exemple, cela va embraser à coup sûr la région et le monde. Ça c'est notre première observation. Deux, la RDC doit être reconnaissante vis-à-vis de la communauté internationale qui est venue à sa rescousse sur demande de la RDC. Imaginons que les M23 progressent jusqu'au niveau de Kinshasa. Est-ce que la RDC était-elle capable de mettre fin à ça sans l'intervention, l'assistance de la MONUSCO et de la communauté internationale, sans l'assistance de la brigade d'intervention qui était venue? La situation de Beni qui s'est passée le mardi passé. D'ailleurs, nous profitons pour présenter nos condoléances les plus sincères à toutes les familles éprouvées à Beni. Alors, la situation de Beni qui n'a pas encore trouvé de solution. Imaginons que la MONUSCO quitte et la communauté internationale quitte aujourd'hui. Que deviendra l'Est de la République démocratique du Congo? Puisque jusqu'à ce jour, depuis que la guerre a commencé à Beni, depuis qu'on a attaqué les ADF, ça doit être au mois de janvier 2014, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des morts et des massacres à Beni. Le gouvernement n'a pas encore réussi à maîtriser la situation de Beni. Et si, comme par ricochet, la MONUSCO arrivait à se retirer aujourd'hui, je ne trouve pas jusque-là une alternative crédible pouvant sécuriser encore l'Est de la RDC. Par contre, le gouvernement doit solliciter à son sein la formation des brigades anti-djihadistes qui doivent être formées, antiterroristes, qui doivent être formées pour faire face à cela. Puisque la guerre qui est en train de mener les ADEP, ce n'est pas une guerre classique. Il faut vraiment adapter des solutions par rapport à ça. Et mettre fin à ça et organiser surtout de bonnes élections avec ou sans l'aide de la communauté internationale, ce n'est pas un problème. Si vous refusez qu'on ne puisse pas vous assister, ce n'est pas un problème. Mais faites-le de manière à ce qu'après les élections, que les gens, que les résultats qui seront programmés soient réellement les vrais résultats du vrai gagnant et que cela se passe dans un minimum de consensus. Mais actuellement, avec ce qui se passe, il paraît que les élections qui vont venir risquent de créer plus de problèmes que ça va les résoudre. Lorsqu'il n'y a pas d'entente entre les parties prenantes, en ce qui concerne l'usage des matériels pour ces élections ici, par exemple avec le problème de la machine à voter, cette machine à voter qui pose problème, qui est imposée par la CENI et une partie prenante aux élections, va créer certainement des problèmes et ces élections-là seront contestées. Comment la MONUSCO va-t-elle se retirer pour laisser un pays instable sur le plan politique? Il suffit d'organiser de bonnes élections. Et après ces élections, on programme les vrais vainqueurs et il y a passation de pouvoir de manière civilisée entre le président entrant et le président sortant. Et à ce moment-là, la MONUSCO peut, au lendemain de la programmation des résultats, quitter la République démocratique du Congo, puisqu'elle aura laissé derrière elle un pays politiquement stable qui fera face aux problèmes sécuritaires, économiques et sociaux de la population. Mais dans les conditions actuelles, où nous ne sommes pas encore certains de gérer nous-mêmes notre propre situation, ce sont les mêmes erreurs qui ont été commises en 1960, après l'indépendance. Le roi belge avait conseillé à nos aînés de ne pas se précipiter à changer des choses qu'ils ne seront pas capables de faire. Puisque en les changeant, ça va créer des troubles, ça va vous remettre dans des troubles, ça va vous remettre dans des
maladies. Alors pour vous, Bintou, vous estimez qu'aujourd'hui, vous estimez, Bintou, qu'aujourd'hui on a besoin de cette coopération avec la communauté internationale, alors parce qu'on a besoin de la stabilisation, on a besoin aussi d'avoir des bonnes élections. Merci Bintou, vous êtes à Kimpese, on retourne ici à Kinshasa. Félicien, pensez-vous aujourd'hui que même si la RDC finance celle à 100% l'organisation des élections, à quel niveau, que ce soit un pays tiers, peut-il aujourd'hui intervenir pour réclamer que le processus soit assez crédible, même si ce processus est financé à 100% par le gouvernement congolais? Bonjour Félicien.
Alors bonjour Pierrot, bonjour à tous les autres de Radio Capéo.
Oui, on vous écoute.
Oui, je disais que je suis content du discours du président de la République et à la 63e session des Nations Unies. Il a dit beaucoup de bonnes choses que moi je voulais qu'on dise un peu à la communauté internationale et à l'Occident, je vais dire aux multinationales. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que ces multinationales et la communauté internationale a tué plus de 15 millions de Congolais, seulement à cause de leurs richesses, parce qu'on doit venir prendre les richesses à notre pays. Il faut tuer les gens, il faut multiplier des guerres, il faut donner des armes aux rébellions pour qu'on puisse mettre des ordres et viennent prendre ce qu'ils ont besoin de prendre. Mais pour ce qui est des élections, moi je pense que là, je n'ai rien compris. Parce que nous sommes au pays. Quand le président de la République dit qu'on fera des élections crédibles, je ne sais pas si c'est le 23 que les élections deviennent crédibles, ou bien la crédibilité des élections, nous devons déjà les constater dans leur préparation. Alors que nous nous prenons ici tout ce qui a été convenu. Dans les accords de Saint-Sylvestre n'ont jamais été appliqués pour que les élections soient crédibles, paisibles et transparentes. Alors, on parle des élections crédibles, ça dit que la crédibilité, ça sera les 23. Alors, ce qui n'est pas possible. Et moi, personne ne nous impose les élections. C'est nous qui avons choisi la voie des élections. Le peuple congolais ne mange pas les élections. Le peuple congolais veut la bonne gouvernance. Le peuple congolais veut que les revenus nationaux soient répartis équitablement à toutes les couches de la population. C'est la bonne gouvernance que nous avons besoin. Si on ne veut pas des élections, on devrait travailler pour que ce pays-ci émerge comme la Libye.
Alors, Félicien, mais pensez-vous aujourd'hui que la communauté internationale ou d'autres pays ont-ils droit de regard sur le procès électoral? Parce que le débat est parti de ces communiqués du gouvernement dénonçant qu'il y a l'ingérence de certaines autorités dans les procès électoraux. Pensez-vous aujourd'hui qu'ils ont droit de regard ou un point de vue à émettre sur le déroulement de ces procès électoraux?
Nous avions un choix à faire, ou bien nous restons un État, je vais dire, dictatorial, comme on était avec Mobutu, sans élection. Kadhafi a été sans élection. Mais nous avons choisi la voie de la démocratie. Et la démocratie, elle a ses règles, elle a ses principes. Et nous devions savoir les respecter. Vous ne pouvez pas être chez vous, dans votre maison, en train de taper votre femme et vos enfants, les gens sont en train de crier, vous fermez la porte et que personne n'entre. Si vous voulez tuer vos enfants et votre femme, vous êtes libre. Non, les voisins viendront forcer la porte et ils vont entrer parce qu'il n'est pas permis de faire cela parce que ce sont des êtres humains. C'est la même chose avec cette ingérence dont on parle. Nous sommes chez nous pour seulement réclamer les élections. Il faut que les gens meurent pour refuser en Chine à voter, il faut que les gens meurent, et on va nous laisser comme ça, alors que ceux qui nous tuent sont ceux qui devaient nous protéger. Mais c'est normal que les gens interviennent dans cette affaire.
Merci donc, beaucoup, Félicien, oui. Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que c'est normal que les gens interviennent. Adrien, vous êtes aussi à Kinshasa. Le gouvernement estime que, vu ce contexte d'ingérence, il y a eu même un communiqué où le gouvernement menaçait même de quitter la Cour pénale internationale. Pensez-vous aujourd'hui que la RDC a atteint ce niveau de maturité où elle peut se gérer des grands dossiers comme les élections, comme la justice, sans l'intervention d'un pays tiers ou d'une organisation internationale? Adrien, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la MJ. Je profite de l'occasion pour saluer aussi les professeurs Chiemé. Je pense, Pierrot, que nous devons énormément tirer attention avec nos prises de position, parce que vous n'avez qu'à jeter un regard sur les quatre coins de l'Afrique. La plupart des pays qui prennent des initiatives pour dire « je quitte telle organisation, je quitte telle Donc, derrière ces décisions-là, il y a toujours un agenda caché. Heureusement que le professeur Maïla Tchembe a très bien donné la définition d'une ingérence. Nous tous, nous étions à l'université, nous avions appris qu'est-ce que l'ingérence. Et lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, moi je dirais tout simplement que ce sont les conseils d'amis d'État. Pourquoi? Parce que si les autorités congolaises sentaient ce que la RDC représente sur le plan international, je pense qu'aucune autorité ne pouvait donc prendre parole avec légèreté pour dire que non, voilà, nous ne voulons plus, ainsi de suite. Lorsqu'on vous dit, attention, parce que les Nations Unies ont suffisamment investi de l'argent dans ce pays. Si la RDC est déstabilisée aujourd'hui, et c'est une grande partie de l'Afrique qui sera donc affectée. Et lorsque on dit les élections telles que vous êtes en train de le préparer, ça ne sera pas donc une panacée, mais ça risque de créer plus de problèmes. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que ça l'ingérence? Est-ce qu'on vous a dit que non, moi je suis un Américain, je viens postuler dans votre pays? Moi je pense, pour commencer à répondre à votre question, Pierrot, se retirer aujourd'hui, la RDC n'a pas encore atteint ce niveau-là pour s'auto-prise en charge. Et moi, souvent, ça m'écœure lorsque les mêmes pays-là viennent construire le palais de justice, comme le bâtiment qu'abrite le tribunal de grande instance de Kananga aujourd'hui. C'est une aide donc du parc de l'Union européenne, et là on n'est pas donc indépendant, là nous sommes dépendants. Mais lorsqu'il y a un conseil d'amis, et donc directement ça change, nous devenons donc nous recouvrons maintenant notre indépendance. Ce n'est pas comme ça. La question de la CPI, bon, moi je suis en train de me poser la question, et ce que le gouvernement congolais est en train de faire, c'est une honte tout simplement. Comment? Parce que sur le plan constitutionnel, la RDC a cette prérogative de soutenir et de protéger d'abord ses propres fils s'il y avait rumeur, parce que tout est parti de là. Lorsqu'il y avait rumeur, l'OSDMA doit sortir, et c'est comme ça qu'il y a donc une prise de position rocambolesque. Non, nous retirer parce qu'il y a des juges qui subissent des pressions. Moi, je pense que c'est tout simplement ridicule. En fait, pour faire une élection pour terminer, et moi, j'ai dit que si vraiment qu'on ne parvient pas à prendre en considération toutes les questions, tous les conseils du prodigués, nous irons tout droit vers le mur et en ce moment,
merci Adrien.
Les commanditaires commenceront maintenant à jeter de la responsabilité sur le dos des autres personnes qui n'ont
merci.
Rien
merci
à
beaucoup,
voir avec...
Merci beaucoup Adrien. Vous estimez que les contextes, que ce soit les contextes électoraux, les contextes sécuritaires, la RDC a besoin de conseils d'amis, a besoin des orientations qui puissent provenir des autres. C'est dans ces cas où on peut mener à bout le processus. On va revenir à notre invité pour commenter ce qui a été dit tout à l'heure par nos auditeurs. 081-890-4969, ce sont les deux lignes pour intervenir en direct dans ce magazine.
Radio Capi vous propose le magazine électoral tous les vendredis de 10h à 11h, en rediffusion samedi de 11h à 12h, hors de Kinshasa. Le magazine électoral aborde toutes les questions liées au processus électoral et fait le point sur la loi électorale. Le magazine électoral, un forum sur les élections en RDC, sur Radio Capi, votre radio. Parole aux auditeurs.
Professeur Maïla, vous avez suivi nos auditeurs, ils se regroupent cet intérêt que les gens présentent que la RDC puisse encore rester dans ses rouages de soutien de la communauté internationale parce que le procès électoral lui-même, il est assez fragile et qui peut aussi être comme une source de tensions. Alors la RDC a besoin encore des conseils et des orientations, que ce soit des pays tiers ou bien de des organisations de la communauté internationale. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui a été dit par nos auditeurs tout à l'heure?
Il y a trois choses. La première, concernant la demande répétitive du gouvernement congolais, demande selon laquelle il faut que la MONUSCO se retire. Alors, il y a deux choses sur ce point. Il y a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui est la compétence du Conseil de sécurité. Alors, le gouvernement congolais, en tant que représentation de l'État membre des Nations Unies, a aussi un mot à dire souverainement pour apprécier ce que la MONUSCO a fait chaque année. Dois-je rappeler que tous les ans, le Conseil de sécurité permet au gouvernement de la République démocratique du Congo de donner son appréciation sur le soutien ou sur ce qui a été fait. Mais indépendamment du fait que d'un côté le gouvernement congolais, au nom de sa souveraineté, a un mot à dire s'il faut maintenir ou non la MONUSCO en République démocratique du Congo, mais la décision ultime sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale revient au Conseil de sécurité. C'est pour cette raison que même si le gouvernement congolais dit qu'il souhaite que la MONUSCO se retire parce que son bilan est mitigé, le maintien de la paix et de la sécurité internationale est la compétence du Conseil de sécurité. Donc, in fine, après l'avis respecté du gouvernement congolais, c'est l'avis du Conseil de sécurité qui a en charge le maintien de la paix qui est pris en compte par la communauté internationale. Donc, sur le deuxième élément qui concerne les élections. Les élections relèvent de la souveraineté nationale, c'est l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais cette souveraineté nationale qui appartient au peuple, le peuple peut y participer directement ou indirectement. Lorsque le peuple y participe directement, c'est par un référendum ou par élection. Donc, l'élection est le tendon d'Achille de la souveraineté nationale. Et d'ailleurs, si on regarde la Constitution, l'organisation des élections relève de la CENI. Les lois électorales relèvent du Parlement. Les moyens des élections, que ce soit les moyens financiers, logistiques, humains, relèvent de la compétence du gouvernement. Donc, l'élection, dans sa conception, comme l'expression réelle de la souveraineté populaire, la responsabilité de l'organisation, les moyens, on connaît les autorités qui en ont la compétence. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République, lors du dialogue, a demandé à ce qu'il y ait des élections non seulement libres, démocratiques et transparentes, mais apaisées, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il s'adresse non seulement à la communauté internationale, mais il s'adresse d'abord aux Congolais. Le dialogue a été convoqué pour que les Congolais se mettent ensemble au nom de l'intérêt supérieur de la nation, chacun dépassant ses contradictions, pour éviter que le pays ne soit plongé dans le chaos. Donc, l'organisation des élections, la proclamation des résultats, la paix, l'aspect de paisibilité qui découle des élections, tient, relève de la responsabilité de l'organe qui est chargé de l'organisation, la CENI, du Parlement qui doit lui fournir des lois, des règles, et le gouvernement qui doit lui fournir les moyens. Et tout ceci, c'est sur la place publique. C'est-à-dire que le peuple souverain participe lui-même quotidiennement vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis de la CENI, pour avoir l'assurance que les élections seront paisibles. En conséquence de quoi, moi-même et d'autres collègues, le feu procès Bioya et d'autres personnes, nous avions soutenu la thèse que payer les élections relève de la compétence souveraine de l'État. Et quand un État ne peut pas, pour des raisons, des pays comme la République démocratique du Congo, sortant de la guerre affaiblie, n'a pas les moyens, au nom de la solidarité internationale, les organisations internationales, d'autres États peuvent participer financièrement, logistiquement, à aider la République démocratique du Congo,
oui,
qui est membre de la communauté internationale. C'est ce qu'on a vu avec les élections de 2006. Alors si aujourd'hui le gouvernement congolais, ayant retrouvé les moyens de sa souveraineté, les assume, on ne peut que dire cocorico. Une fois n'est pas coutume, si le gouvernement congolais souverain assume la charge de la souveraineté en finançant ses élections, en les organisant de telle manière que la paix règne au Congo après les élections, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Mais la communauté internationale, à propos des élections, la communauté internationale ne fait pas les, n'organise pas les élections. Mais tout simplement, la communauté internationale soutient l'engagement des Congolais, notamment l'accord de la CENCO, qui est venu formaliser tout ce que le chef de l'État avait souhaité et tout ce que les signataires ont accepté pour que cette élection soit réellement libre, démocratique et transparente.
Ce n'est
pas un engagement vis-à-vis de la communauté internationale. C'est l'engagement du chef de l'État, l'engagement du gouvernement, l'engagement du Parlement, l'engagement de la CENI vis-à-vis du souverain primaire, qui est le peuple congolais. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis, peut-être que pour des raisons de convenance. Tout le monde a le droit de parler, c'est vrai. Un gouvernement, gouverner, ce n'est pas seulement faire les choses, c'est aussi parler. Donc que le gouvernement parle, c'est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas se tromper de chemin. Les élections et leur caractère démocratique et apaisé s'adressent d'abord au peuple congolais, qui est le souverain primaire. Bah, imaginez-vous si demain les élections sont mal organisées et que le pays sombre dans le chaos. Ce n'est pas seulement l'affaire de la communauté internationale, c'est d'abord l'affaire des Congolais. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et
merci.
Je pense que tout le monde doit savoir raison garder.
Merci, professeur. On revient à vous, le temps d'écouter Bernard qui est à Lubumbashi et Pichu à Kulungongo. Bernard, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité, à nos auditeurs de Radio Okapi. Permettez que je puisse adresser les condoléances aux frères et sœurs de Beni au nom de notre fidèle arrêté de nous faire tuer.
Ok, on vous écoute, oui.
Hier, moi je m'inscris en faux lorsque le ministre parle de la souveraineté. La souveraineté est pour un peuple et pas pour un groupe d'individus qui considèrent la République comme leur affaire privée pour y faire du n'importe quoi. Nous considérons la République comme symbole d'une nation. Nation, c'est une famille, nous pouvons prendre l'exemple d'une famille en miniature. Lorsque il arrive un problème au sein de la famille et que nos voisins regardent sans intervenir, l'État nous condamne que non, il y a eu non assistance en personne en danger. Mais comment voulez-vous que ce qui se passe au sein de notre pays, que les autres nations puissent regarder avec un œil passif au moment où ils ont droit aussi de nous interpeller comme nous le faisons et comme notre loi aussi nous le dit. C'est pourquoi nous disons que nous inscrivons en faux en tout ce qui dit que non, au nom de la souveraineté, les autres nations n'ont pas droit à nous interpeller. Non, ils ont droit à nous interpeller et à nous corriger là où ça ne va pas. C'est pour cela que je voulais un peu intervenir pour leur dire que non, la souveraineté pour un peuple, pas pour un groupe d'individus qui veulent faire de la nation leur affaire privée et qu'on puisse leur laisser au nom de la souveraineté.
Merci beaucoup Bernard. Pour vous, quand il y a des problèmes au sein du pays, c'est normal que nous soyons interpellés par d'autres pays pour que le pays soit dans la stabilité. La question de la souveraineté, elle doit être nationale, elle doit être collective, mais pas seulement pour un groupe de personnes. Merci beaucoup Bernard Pichou, vous êtes à Kulungongo. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour,
on vous écoute, Pichou.
Je commencerai d'abord par présenter mes inquiétudes par rapport à du fait qu'il y a des signaux, c'est-à-dire des tableaux qui nous démontrent qu'il y a un ça ne va pas dans la machine gouvernementale. Moi, je crois qu'un pays souverain comme le nôtre, le président l'a dit dans ses deux discours d'investiture, il va sauvegarder la souveraineté de ce pays. Pour ne pas aller trop loin, je voudrais, à ce que nous puissions, n'est-ce pas, rappeler à beaucoup des auditeurs et à ceux-là qui nous suivent dans le gouvernement que le Congo est un pays souverain et nous avons besoin de cette souveraineté pour aller plus loin dans toutes nos démarches. Mais qu'est-ce que nous observons? Partant du fait que le chef de l'État, dans ses discours, nous avons suivi ça, j'ai relu même dans deux pages Facebook, L'inquiétude se présente là où le président, le chef de l'État, demande à ce que l'ONU puisse quitter la RDC. Pendant que l'ONU nous a aidés en 2006, nous a aidés en 2011, et aujourd'hui, au moment où le chef de l'État devait se préparer pour sa sortie, il nous amène des problèmes au lieu des solutions. C'est-à-dire que le chef de l'État, comme il est là, doit avoir une vision panoramique. Il doit trouver des solutions à sa population qui cherche des problèmes. C'est-à-dire qu'en enlevant la MONUSCO ici, au Congo, vous voyez comment les choses se passent. Pendant que la MONUSCO est là, à l'Est, il y a des choses graves qui se passent. Il y a des crimes graves qui se passent au niveau de l'Est. Pendant que les solutions ne sont pas là, on veut trouver encore un autre problème en enlevant la MONUSCO. Moi, je crois que il y a un bon sérieux. Je voudrais aussi, par ce moment, donner conseil aux dauphins, que les dauphins doivent chercher un conseiller spécialiste en communication. Partant quoi? Hier, j'ai lu, il y a le message qu'il a passé aux amis qui sont décédés à l'Est, en disant que Dieu a donné, Dieu a repris. Cette phrase, en tout cas, j'ai repris ça plusieurs fois dans mon laboratoire physique. Je me dis qu'il y a un problème de communication dans son bureau. S'il y a moyen, le chef, le dauphin, doit chercher un spécialiste en communication pour donner des messages. Il se prépare à la magistrature suprême. Moi, je crois que des messages comme ça, au lieu de consoler des gens, ça pose un tout petit peu un problème. Nous voyons des gouverneurs partout. Aujourd'hui, c'est comme un parquet-État. Dans toutes les provinces, il n'y a que des gouverneurs de la majorité. C'est un problème sérieux qui doit être résolu avant que nous n'arrivions aux élections. Oui, donc je ne voudrais pas
me... Oui, on ne va pas entrer dans le débat. On ne va pas entrer dans ce débat, Pichou. Je crois peut-être que votre conseil est arrivé. Je crois que chaque personne qui veut, chaque candidat doit avoir son cabinet, les chargés des communications et le reste, c'est des affaires internes, mais c'est une remarque que vous avez faite. Mais pour vous, vous estimez que le moment n'est pas encore arrivé pour qu'on ait de la souveraineté. La RDC organise seule la gestion de l'État en termes de sécuritaire, mais aussi par rapport à la question des élections. Mais les professeurs les disaient tout à l'heure, mais si la RDC a tous les moyens logistiques et financiers et sécuritaires pour l'organisation des élections, c'est à mieux, c'est normal, parce que c'est une question de souveraineté. Merci beaucoup, Pichou. Franck, merci de nous avoir rejoints de Vienne. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour notre ami Pierrot, bonjour à l'invité, le prof Thierry, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés. Nos sincères condoléances et compassion à nos compatriotes de Béni.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. C'est depuis un certain nombre de mois qu'on suit ce discours sur les ingérences allant par-ci par-là. Mais à travers ce que je suis en train de suivre là, je crois que nous, citoyens congolais, de l'exécutif comme en dehors des institutions, nous pouvons d'abord nous poser la question, cette ingérence dont il est question est provoquée par qui, pourquoi et comment. Mon ami Pierrot, je crois qu'on doit quand même aussi dire des histoires de manière plus responsable. Imaginez-vous que vous avez votre propre maison, il y a des normes pour gérer une maison, et que vos voisins d'à côté se rendent compte que vous ne respectez ni votre femme, ni vos enfants, ni parfois votre manière d'agir peut entraîner de graves conséquences au niveau des familles voisines. Est-ce que vraiment vos voisins seront tout le temps d'accord avec vous? Ils vont chercher à vous rappeler à l'ordre. Parce que le monde, c'est pas seulement moi, mais c'est aussi les autres avec qui je compose. Ça, c'est un des problèmes. Puis des deux, nous avons des textes, des lois de la République qui sont encore en vigueur. Et si nous-mêmes, citoyens congolais, on les ignore ou on doit les sélectionner pour les appliquer, est-ce que c'est pour ça que nous allons brader ces discours souverainistes? Nous avons des accords, nous avons ratifié des accords internationaux. Et parfois, pour les appliquer, ça pose problème. Et là où nous les appliquons, c'est seulement par rapport à certaines retombées qui sont bénéfiques à un groupe d'individus. Est-ce que les autres qui sont en concert avec nous, vont nous laisser faire de cette manière-là? Je crois que nous, citoyens congolais, nous avons toujours dit nous voulons avoir un pays souverain, nous voulons être souverains, et c'est chaque citoyen du monde qui est instruit, qui est informé et qui est bien éduqué qui ne veut pas être géré par procuration. Et seulement avoir la nature de ce qui se dit, c'est bien. Mais le fond, pourquoi on nous le dit, pourquoi on nous fait tous ces rappels-là, c'est parce que nous ne respectons pas nos lois, c'est parce que nous avons une constitution en vigueur et pour l'appliquer, on le fait de manière sélective. C'est comme ça que les autres profitent de toutes ces fenêtres que nous ouvrons nous-mêmes pour nous faire toutes ces leçons-là. Mon ami Pierrot, si les élections avaient été organisées en 2016, est-ce que tous ces gens-là, que ce soit des pays voisins, que ce soit de la Belgique, des États-Unis, est-ce qu'ils trouveraient toutes ces fenêtres-là pour s'ingérer? Je crois que nous devons d'abord nous observer de l'intérieur. Quand vous avez fait quelque chose de manière qui n'est pas la bonne, acceptez aussi que les autres vous disent que là, mes amis, ça n'a pas été. Et on peut peut-être revoir de l'intérieur et changer. Mais quand on est en train de prendre des directions qui font craindre que vous alliez vers le pire et que les gens vous disent que non, la direction que vous prenez peut entraîner des conséquences néfastes. La RDC a 9 voisins. Qui de ces pays voisins accepterait de voir la grandeur de la RDC plongée dans le chaos? Et quand ça ne va pas chez nous, les gens cherchent à aller ailleurs. Quand ça ne va pas ailleurs, les gens cherchent à venir chez nous. Pourquoi nous voulons que chez nous ça marche? Mais nous voulons seulement que ça marche dans notre optique avec des flous. Puis je crois que les régimes démocratiques que nous voulons avoir dans notre pays, ça doit être un système démocratique vrai, réel et transparent et non une démocratie de façade. Parce qu'on dit que nous voulons les élections libres, apaisées, mais telles que ça se prépare là, est-ce que vraiment en âme et conscience, les mêmes personnes qui nous disent ne savent-elles pas que tel que nous sommes en train d'aller là, nous allons déjà vers des élections qui seront contestées au lendemain déjà. Comment on peut dire une chose alors que dans la manière de préparer, on sait que c'est le contraire qui sera mis en place? Non, mon ami Pierrot, nous voulons bien être autonomes, c'est chaque citoyen du monde qui aimerait être respecté. Mais le respect dont il est question, c'est d'abord de l'intérieur qu'on doit se le faire. Donc moi, si je ne respecte pas mes lois, je ne peux plus m'enflammer si quelqu'un d'autre me rappelle que non, c'est une loi que tu devais respecter, voilà la limite, c'est là, tu ne l'as pas fait. Je dois m'observer pour me dire, mais j'ai d'abord quelle conception de la loi, et si c'est un voisin qui se permet de me rappeler de respecter une loi pour gérer mon foyer, pour gérer ma maison, je crois qu'il y en a mes consciences.
Merci Franck.
Je devrais peut-être afficher aussi des humeurs pour lui faire des observations.
Merci beaucoup Franck. Vous estimez que c'est une question de respect des lois, des constitutions, de gouvernance qui puisse permettre à ce que les autres n'aient pas. Mais quand vous avez évoqué la question des élections par rapport aux remarques ou bien aux avis des uns et des autres, si elles ont été organisées à la période indiquée, peut-être que les gens n'auront pas eu l'occasion de pouvoir formuler des remarques à la RDC. Merci beaucoup Franck. On va terminer avec vous, Trésor, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue.
Oui, merci beaucoup, Pierrot. Moi, je pense qu'on ne doit pas continuer à tromper le peuple congolais. Lorsqu'on a fait la déclaration que la MONUSCO devrait quitter la RDC, nous avons tous suivi que le gouverneur du Nord Kivu était atterri à Beni par un hélicoptère de la MONUSCO. Donc, on dit une chose et son contraire à la fois. Donc, le gouverneur, comme on a déjà demandé le départ de la MONUSCO, devait refuser de monter à bord de cet hélicoptère, puisqu'on ne veut plus de la MONUSCO. Mais pourquoi on veut des matériels, des biens de la MONUSCO? C'est contradictoire. Et la RDC est bénéficiaire des services de la Cour pénale internationale. Si nous voyons même les contours de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba et de Bosco Ntaganda aujourd'hui, on peut bien comprendre que la RDC avait usé de son implication, de son ingérence dans les affaires intérieures de la CPI, puisque nos deux compatriotes ne pouvaient pas être arrêtés aussi facilement comme cela. Et nous avons suivi la CENI et la Cour constitutionnelle évoquer un arrêt de la Cour pénale internationale pour écarter injustement la candidature de Jean-Pierre Bemba. Donc, quelques jours seulement, ça n'a même pas pris un mois, la RDC, dont la Cour constitutionnelle et la CENI, fait une déclaration qui doit quitter la CPI. Cela dénote d'un complot, d'une cabale contre le peuple congolais, puisque même aujourd'hui, la CENI est en train de vouloir organiser une élection en violation de la loi électorale et en violation de son propre calendrier électoral, qui ne prévoit pas l'usage de la fameuse machine à voter. Et sur le plan national, la majorité des Congolais et même des partis prenantes directement au processus électoral sont contre cette machine à voter. Mais il n'y a qu'une minorité de personnes qui soutiennent la CENI à utiliser cette machine. Donc je vois que le peuple congolais est en danger, comme un des intervenants avait dit, et que la communauté internationale est dans l'obligation d'assister le peuple congolais, un peuple en danger. Et si aujourd'hui les massacres continuent à Beni, c'est parce que aussi on n'a pas sanctionné ou poursuivi les criminels qui avaient leur implication dans le massacre des Kamuinas innocents. Donc la CPI a tout intérêt à lancer son mandat d'arrêt le plus tôt possible, bien avant même
Merci beaucoup, Trésor. Merci beaucoup, Trésor. Vous estimez que la situation mérite encore un avis de la communauté internationale pour la question de la stabilité. Merci aux uns et aux autres. On poursuit les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On revient à vous, professeur Moïla. En bref, peut-être deux minutes pour conclure cet échange.
Oui, nous pouvons conclure en disant que, par exemple, sur la CPI, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays au monde à avoir sollicité le concours de la CPI pour juger les Congolais ayant commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la CPI est une juridiction complémentaire. La souveraineté judiciaire appartient au tribunal de la République démocratique du Congo. Si le gouvernement congolais veut juger les Congolais ayant commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide, c'est son droit souverain. Il n'a pas besoin, le Congo, de passer par la CPI. La CPI n'est qu'une juridiction complémentaire. C'est lorsque le gouvernement congolais est dans l'incapacité, pour des raisons, un pays qui sort de la guerre, n'a pas les moyens ou il n'y a pas de volonté pour le faire, le gouvernement congolais peut s'adresser à la CPI pour lui dire, voilà, moi je suis dans l'incapacité de juger des criminels, etc., etc., venez nous donner un coup de main. C'est ça la CPI, monsieur. Or, on fait passer la CPI comme la première juridiction de la République démocratique du Congo. C'est faux. La CPI est une juridiction complémentaire des juridictions nationales congolaises et qui ne peuvent être sollicitées par la République démocratique. Bien sûr, sauf dans le cas où il y a déni de justice, le retrait des personnes qui doivent être jugées, qui sont cachées ou protégées, ou de faux jugements, alors, à ce moment-là, la CPI a la capacité, conformément au statut de Rome, de revenir sur des soi-disant jugements qui auraient été bidons pour juger les mêmes personnes. Mais toute personne jugée ne peut pas être jugée deux fois. C'est un principe général de droit. Donc, si le gouvernement congolais le fait, il a le droit de le faire. Donc, sur la question de machine à voter, voilà encore une affaire des Congolais, souveraineté. Mais il n'y a aucune loi congolaise qui prévoit une machine à voter. Qu'est-ce que le président de la CENI dit à tout le monde, Orbi et Orbi? Oh, c'est pour améliorer les conditions des élections, pour que ça évite, parce que si ça traîne, ça risque de, par les rumeurs, etc., d'envenimer la situation.
Merci, merci professeur.
Mais le président de la CENI est l'un des Congolais. S'il veut convaincre, ce n'est pas les États-Unis qu'il faut convaincre, ce n'est pas l'Angola qu'il faut convaincre. Il faut convaincre les Congolais
Merci.
Que réellement, cette machine n'est pas une machine à la tricherie en faveur de tel ou tel camp.
Merci, professeur.
Et de le pays, etc.
Donc, merci.
Nous sommes là sur un faux débat.
Merci beaucoup, professeur Moïla Tiembe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs de l'Institut panafricain de Nancy en France. Merci à toute l'équipe de production des paroles, aux auditeurs. Jean-Claude Siala était à la mise en ordre, Nico Kalamba et à la réalisation. Gérald Ngembo était à la coordination. Piero Elamegi vous a présenté ce magazine que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.